peut pas comprendre l'Holocauste tant que l'on considère l'antisémitisme comme un exemple du racisme en général, et tant que l'on conçoit le nazisme seulement en termes de grand capital et d'état policier bureaucratique terroriste. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Holocauste et de l'antisémitisme moderne? Ni le nombre des hommes qui furent assassinés, ni l'étendue de leurs souffrances. Ce n'est pas une question de quantité. L'Holocauste se caractérise par un sens de la mission idéologique, par une relative absence d'émotion et de haine directe, et, ce qui est encore plus important, par son manque évident de fonctionnalité. L'extermination des Juifs ne devait pas seulement être totale, elle était une fin en soi. L'extermination pour l'extermination, une fin exigeant la priorité absolue.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la destruction des Juifs d'Europe. C'est une série d'émissions, d'une certaine façon, qui se fera en deux temps, avec une première émission consacrée au processus factuel, entre guillemets, de la destruction des Juifs d'Europe de 1933 à 1945, et une deuxième émission qui, elle, parlera donc du débat historique et théorique autour des causes de la destruction des Juifs d'Europe, de ces causes à la fois immédiates, causes immédiates de la solution finale, et des causes plus profondes de l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc pour parler de ce sujet, nous sommes avec Paul et Johannes, qui sont des bons connaisseurs de ces questions, parce qu'ils s'y sont intéressés à partir notamment d'une critique radicale du capitalisme, et également de préoccupations autour de la question de l'antisémitisme aujourd'hui et de l'antisémitisme en Allemagne historiquement. Donc bonjour Paul et Johannes.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'on a tenu à faire cette première émission factuelle? C'est parce que malgré l'apparence du fait qu'on connaîtrait la Shoah, voire même qu'on la connaîtrait trop, qu'on en parlerait trop, en réalité on a pu constater qu'il y avait une relative méconnaissance du sujet, et cette méconnaissance du sujet... Et ce sur quoi surfe en fait le négationnisme. Et on a trouvé que c'était important en fait de faire voilà un récit historique complet de cette question. Et du coup pour cette raison, on pensait que c'était intéressant de donner un récit factuel complet de la destruction des Juifs d'Europe, en se basant sur l'ouvrage, la somme même, de Raoul Hilberg. Qui est un peu l'historien pionnier hein, de la destruction des Juifs d'Europe. D'ailleurs, c'est comme ça que son livre s'appelle. Et on pensait que voilà, il offre un fil conducteur très intéressant, même si on verra dans la deuxième émission que, évidemment, cette somme, évidemment, elle est discutable, critiquable, que chaque historien, même dans son récit factuel, a des hypothèses théoriques forte, et du coup c'est pour ça qu'on a fait la deuxième émission, justement pour voir qu'en fait il y a pas mal de manières d'approcher la destruction des Juifs d'Europe, à la fois théoriquement et historiquement, et que voilà, du coup dans cette émission on va surtout se concentrer sur ce qu'en dit Hilberg, mais évidemment dans la deuxième émission on mettra Hilberg en perspective avec pas mal d'autres historiens.
Peut-être pour ajouter, parce que tu as parlé du problème du négationnisme comme une raison pourquoi s'intéresser à l'histoire plus précisément de la Shoah ou de la destruction des Juifs. Mais il y a aussi d'autres approches qui sont intéressantes à critiquer, pas seulement le négationnisme, mais voilà, il y a les approches très matérialistes, il y a des approches justement qui mettent beaucoup l'accent sur l'idéologie, d'autres beaucoup plus sur les conditions matérielles. Voilà, il y a toute une série d'approches intéressantes à confronter, pas seulement le cas extrême du négationnisme.
Oui, effectivement, là tu fais référence du coup à des approches marxistes qui ont cherché à analyser la destruction des Juifs d'Europe à partir d'un schéma purement anticapitaliste, matérialiste. Et en fait, c'est vrai que toute cette émission factuelle prépare d'une certaine manière la critique qu'on va pouvoir faire de cette approche marxiste orthodoxe dans la deuxième émission, puisqu'on va voir avec Hilberg notamment qu'on ne peut très clairement pas faire de ce processus de destruction des Juifs d'Europe quelque chose qui serait rentable économiquement ou qui obéirait aux lois du capital ou qui serait simplement une forme un peu exagérée de l'exploitation capitaliste.
Oui, et aussi bien de l'autre côté, ne pas en faire une espèce de folie exceptionnelle, inexplicable, comme ça, qui serait plutôt l'explication de droite, quoi. De dire, voilà, il y a eu un moment de folie inexplicable et il n'a rien à voir avec la normalité capitaliste.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu, dès la Seconde Guerre mondiale, un peu la théorie des gangsters. C'est-à-dire que finalement, Hitler et ses quelques proches seraient juste en fait des fous furieux. Et que, voilà, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose théorique à en tirer. Aujourd'hui, voilà, ça s'est passé, c'est fini, etc. Alors que dans la deuxième émission, on verra très bien que, en fait, c'est une question beaucoup plus complexe et qui amène beaucoup plus de réflexion que ce qu'on croit. Et là, dans cette première émission, déjà, on verra comment est-ce que la destruction des Juifs d'Europe est un processus qui n'a rien de complètement hasardeux ou de fou, mais qui a en réalité, si on prend en tout cas la thèse de Hilberg, une certaine implacabilité, une certaine logique implacable, avec plusieurs étapes, ce dont on va parler maintenant.
Encore une autre motivation aussi, on pourrait par exemple citer Günther Anders, qui écrit déjà dans les années, je crois, 50 ou 50. 60, qui dit que Auschwitz n'est pas le résultat d'un passé sombre. Il dit peur que Auschwitz est encore possible, parce qu'il y a eu souvent aussi un peu cette idée-là, ça serait un retour dans la barbarie, et maintenant on est dans la civilisation. Donc lui, il va dire Auschwitz n'est pas encore possible, mais Auschwitz est déjà possible. Est-ce qu'effectivement, cette chose, la destruction des Juifs d'Europe, Auschwitz, tout ce qui va avec, est-ce que on est dans le monde qui a produit cette chose-là, et qu'est-ce que ça veut dire sur notre monde aussi, d'aujourd'hui?
Ouais, ça c'est une question vachement intéressante dont on parlera dans la deuxième émission. Mais déjà dans la première émission, on verra finalement la dimension très moderne en fait du processus de destruction des Juifs d'Europe. C'est pas une série de pogroms moyenâgeux. Enfin, c'est quand même une entreprise de destruction méthodique. Ça, je pense d'ailleurs, c'est une des forces de Hilberg de montrer voilà le caractère méthodique et bureaucratique, etc. Sans pour autant en faire quelque chose de complètement dénué de raison, puisqu'évidemment, Hilberg, même si je pense qu'il y a d'autres historiens qui le font plus, mais relie ça quand même à la question, évidemment, de l'antisémitisme.
Donc voilà, Hilberg, c'est peut-être un des premiers qui fait une approche vraiment globale de toute la... une description globale de tout le processus, quoi, donc de 33 jusqu'à 45. Il va publier ce livre en 1961 aux États-Unis, et déjà c'est intéressant de voir qu'il va avoir beaucoup de problèmes à le publier. Ça n'intéresse personne à l'époque, cette monographie qu'il fait, même au point que, par exemple, Hannah Arendt va intervenir auprès de l'éditeur pour dire non, ce n'est pas intéressant de publier, c'est pas... elle le décourage, quoi. Et il va finalement trouver une petite maison d'édition qui va l'éditer, et ça va rester relativement inconnu pendant pas mal de temps. Et c'est que plus tard que ça va devenir... l'œuvre de référence dans sa totalité, quoi. Après, on a aussi tendance à dire aujourd'hui que c'est que depuis les années 80 qu'on parle de la Shoah ou de la destruction des Juifs d'Europe, et qu'avant on en parlait très peu ou pas du tout. C'est pas vraiment vrai. Il y a pas mal de choses, pas mal d'historiens qui ont publié des choses déjà très très tôt, déjà dans les années 50, après Nuremberg. C'est pas non plus vrai que tout ça était inconnu. Mais dans la perception grand grand public, c'est vrai que ça a véritablement explosé, quoi, en tout cas dans les années 80. Déjà, à partir des années après le procès Eichmann en 61, et puis après, véritablement grand public, si on regarde le volume d'écrits à partir des années 80. Quoi. Aujourd'hui, par exemple, une historienne comme Annette Wiborka, elle dit aujourd'hui, on n'a même plus la capacité de tout lire, de tout ce qui est publié. Elle disait, il y a 20 ans, on se connaissait tous les historiens spécialisés sur la Shoah et l'antisémitisme. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à tout suivre. Il y a une telle production.
Oui, d'ailleurs, là, on peut en profiter pour recommander à des gens qui voudraient un peu approfondir ces questions la revue d'histoire de la Shoah, où il y a quand même pas mal d'articles assez intéressants et qui montre un petit peu bon, les dernières découvertes un peu historiographiques à côté des ouvrages de référence qu'on mentionnera plutôt dans la deuxième émission.
Donc après Hilberg, c'est vraiment une œuvre, on peut dire radicale, dans le sens qu'il va, il va faire un grand dessin en allant extrêmement dans le détail. Ça, je pense qu'il faut lui accorder un énorme crédit pour ce travail. Et puis il l'a aussi poursuivi après 61. Il y a eu la première édition en 61, mais il a pratiquement jusqu'en 2000, il a complété et réédité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas resté sur le niveau de connaissance de 1961.
Oui, d'ailleurs, l'édition à partir de laquelle... on a préparé cette émission, en tout cas pour ma part, c'est du coup l'édition Gallimard, qui est du coup une édition en fait définitive, hein, qui était déjà conçue comme définitive avant la mort de Hilberg, et qui maintenant du coup de facto est définitive après sa mort du coup en 2013. Mm-hmm.
Donc dans ces trois tomes, à chacun 700-800 pages, donc c'est vraiment... Et ça a effectivement aussi une valeur d'être complet, quoi. Il va analyser, il va décrire, c'est même un côté fastidieux quand on le lit. Il y a un récit qui est facile à suivre souvent, mais il y a des moments, c'est des pages et des pages d'explications de telle et telle administration dans tel pays occupé, comment elle a fonctionné, avec les noms, avec des choses qu'on n'a pas forcément besoin de tout garder en tête, mais ça a aussi une valeur d'archive d'un travail d'historien, quoi. Et lui, il va en gros diviser toute cette histoire dans quatre périodes. Donc, la partie de la définition, donc tout le travail de définir qu'est-ce que c'est un juif. Ensuite, il y a toute la partie de l'expropriation. Ensuite, il y a la phase de la concentration, donc avec les constructions des ghettos, quand on commence à voir la concentration essentiellement en Pologne et à l'Est. Et ensuite, la quatrième étape pour lui de la destruction, c'est l'annihilation. Donc, effectivement, la destruction en soi.
Oui, c'est intéressant. Effectivement, ce qui est intéressant chez Hilberg, c'est justement d'avoir montré qu'il y avait bien un processus. Et après, d'ailleurs, il le repère dans chaque pays. Mais effectivement, on voit qu'il y a bien une espèce de processus de destruction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Le titre est, je trouve, assez bien choisi, la destruction des Juifs d'Europe, parce qu'il y a évidemment la dernière étape, la destruction physique, mais avant, il y a une destruction économique, politique, etc. etc.
Et dans une première étape, une séparation.
C'est ça.
D'abord, pour détruire les Juifs, il faut d'abord les séparer dans la société allemande, il faut les séparer du reste de la société et les déshumaniser pour arriver à la destruction. Et donc, il va aussi dire que la destruction est faite par les Allemands. Donc, c'est aussi une étude de l'Allemagne et de ce qu'ont fait les Allemands. Même si après, il va élargir son étude dans les autres pays, mais c'est toujours à partir du point de vue de l'Allemagne. Ce qu'on peut peut-être dire aussi juste, on en parlera plus dans l'autre émission, effectivement, il y a d'autres... Lui, il a beaucoup travaillé sur les archives allemandes, justement, à partir du procès de Nuremberg et après... Il y a d'autres historiens qui, plus tard, comme par exemple Friedlander, vont beaucoup plus travailler sur le récit des victimes. Donc là, il y a tout un débat d'historiens sur comment intégrer des récits de victimes dans une histoire. Mais ça peut donner, en lisant Hilberg, ça peut donner un aspect des fois un peu lisse, quoi, de l'histoire par rapport à d'autres historiens qui ont d'autres manières de raconter l'histoire. Lui, on a l'impression que c'est souvent très technique, quoi. Après, il va aussi donner quelques exemples de personnes, mais c'est quand même presque une histoire factuelle, un peu lisse, un peu distancée.
Oui, c'est un peu une espèce d'histoire par en haut du processus de destruction vu des différentes administrations et bureaucraties qui vont faire le processus de destruction. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Hilberg, c'est qu'il va essayer de définir un petit peu quels sont un peu les quatre grands acteurs de la destruction des Juifs d'Europe. Peut-être qu'il faudrait justement...
Mmh. Oui, mais peut-être qu'on peut suivre plus sa chronologie. Ça veut dire, lui, il va commencer avec... le terreau sur lequel c'est possible en Allemagne. Donc, dans son premier chapitre sur les précédents, il va étudier l'antisémitisme, l'antijudaïsme et le basculement vers l'antisémitisme donc au 19e siècle. Mais il va remonter loin, loin, loin dans l'histoire donc de 15 siècles de persécution des Juifs, notamment en Allemagne. Il va passer vite fait sur des épisodes, mais voilà, il met ça quand même dans ce contexte-là. D'un anti-judaïsme, on sait, à partir des croisades, par exemple en Allemagne, il y a eu des grands pogroms, là, dans la période des pestes, il y a eu des pogroms. Donc il dit que la bureaucratie qui arrive au pouvoir en 1933, ils peuvent s'appuyer sur un vieux ressentiment, sur une vieille tradition aussi, qu'ils vont réactualiser selon lui, mais que... Il s'appuie quand même sur des ressorts lourds et longs. Et là, il prend par exemple, c'est assez intéressant, il fait un parallèle entre la législation catholique et la législation nazie. C'est des tableaux qu'il fait dans son premier chapitre qui sont assez intéressants. Par exemple, il va parler de l'exclusion des juifs de toute fonction publique. Dans la législation catholique, on trouve ça dans le synode de Clermont en 535. Il va prendre des exemples à travers toute l'Europe, pas seulement l'espace germanique. On trouve ça en 535 et ensuite on va trouver quasiment la même chose en avril 1933, ça veut dire l'expulsion hors du service public des juifs. Il prend d'autres exemples. La défense aux juifs de paraître dans les rues pendant la semaine sainte. On va trouver ça dans le troisième synode de Dorléans en 538. Après la législation nazie, elle va reprendre ça avec le décret autorisant les autorités à interdire les rues aux juifs à certains jours. Un décret qui va être sorti en 1938. L'insigne, par exemple, on connaît ça, l'étoile jaune qu'on connaît de l'époque nazie. L'insigne marquant les vêtements des juifs, on trouve ça dans le 4e concile de Latran en 1215. Et en Allemagne, elle va être instaurée en 1941, en septembre 1941. Bon, on peut prendre un dernier exemple, mais voilà, c'est quand même... il y en a plein d'autres. Paiement du mur d'enceinte du ghetto de Rome, qui est extorqué aux victimes. Ça s'est fait en 1555. On fait payer donc aux juifs les frais de construction du ghetto. La même chose qu'on va trouver dans le ghetto de Varsovie en 1941. On va extorquer à la communauté juive l'argent pour construire les murs du ghetto. Voilà, donc il fait plein de parallèles comme ça entre une vieille tradition anti-judaïque et... des choses qu'on va trouver dans l'antisémitisme nazi. Après, il va parler longuement dans ce chapitre de Luther, qu'il faut quand même évoquer si on parle de l'Allemagne et de l'antisémitisme en Allemagne, parce que Luther est... l'Allemagne est grosso modo moitié évangélique, moitié catholique. Les protestants sont luthériens, donc Luther, c'est vraiment une grande, grande figure d'intellectuel allemand, mais qui est lui-même un farouche antisémite. Et... là, récemment, on a fêté les 500 ans de Luther en Allemagne et on en parlait très très peu. On pouvait lire un peu anecdotiquement quelque part qu'il avait sorti beaucoup de choses antisémites, mais Luther, il dit ouvertement il faut tuer les juifs, il faut brûler les synagogues, il y va. C'est vraiment un antisémitisme incompatibilité totale, quoi.
Ouais, quasiment d'extermination, quoi.
Ouais. Il qualifie, par exemple, les juifs de plaies, de pestilence et de pur malheur. C'est d'une virulence extrême. Et c'est intéressant de voir plus tard, une fois les nazis au pouvoir, effectivement, l'église protestante va beaucoup, beaucoup collaborer avec les nazis. Il y a une toute petite fraction de l'église protestante qui va être en opposition, mais la grande majorité de l'église protestante, elle est plus antisémite que l'église catholique. Ouais.
Oui, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, je voulais simplement préciser pour les gens qui auraient envie d'avoir un aperçu aussi visuel, parce que là on a parlé de l'étoile jaune, on a parlé des ghettos. Un documentaire que je trouve assez remarquable là-dessus, ça s'appelle Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs d'Europe, justement, et qui est une série de France Télévisions qui est très bien faite, en 6 épisodes, et où il y a en fait, beaucoup des historiens dont on va parler dans la deuxième partie.
Et Hilberg, il va aussi beaucoup s'intéresser aux stratégies, aux stratégies de survie des communautés juives. Et c'est vrai que c'est aussi une des choses qui... il va se faire aussi attaquer là-dessus, de trouver qu'il parle très peu de résistance juive. Mais lui, voilà, là, il remonte aussi déjà dans le temps, parce que là, je parlais des antécédents, donc de l'antijudaïsme, et il va aussi parler donc de ces périodes, des stratégies des communautés juives pour survivre. Et effectivement, une des stratégies, ou une stratégie souvent employée, c'était le paiement de... il fallait acheter ses droits de rester dans un royaume ou dans un pays, donc de payer... Et très souvent, cette attitude de faire le dos rond, de payer, de faire le dos rond et de se dire que c'est des moments qui vont passer. On prend beaucoup d'exemples en Allemagne où pendant des périodes, ils vont subir une grande persécution, mais il va y avoir relativement peu d'émigration et relativement peu de résistance frontale.
Et oui, ça d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça se voit chez Hilberg, mais aussi chez d'autres historiens, du fait que, y avait, de la part des futures victimes juives, une difficulté à imaginer enfin, ce qui allait se passer. Et en même temps, c'est parfaitement compréhensible, c'est-à-dire que, bon, au fur et à mesure de la guerre, bah, par exemple, les derniers juifs exterminés, les juifs hongrois, eux, ils avaient une conscience quand même assez claire de ce qui allait se passer, quoi. Même si ils sont réussi, enfin en tout cas c'est ce que dit Hilberg, à se faire un petit peu embobiner, au moins les chefs de la communauté. Mais en tout cas, il y avait enfin, une difficulté à imaginer voilà, que c'était un processus d'extermination. Ce qui était imaginé et imaginable, c'est ce qui s'était déjà passé dans l'histoire juive. C'est pour ça que l'histoire juive, au long cours, évidemment, elle est importante voilà, à être mentionnée, parce que sinon on comprend pas certaines réactions. Mais celle de l'expulsion, donc de la déportation, à être amené à un autre endroit, et celui du pogrom. C'est-à-dire, par exemple, Hilberg, il mentionne le fait que en 1941, lors des opérations mobiles de tuerie, dont on va parler plus tard dans l'émission, eh bien, voilà, il y a l'idée que finalement, ce qu'on va appeler ensuite la Shoah par balle, c'est des pogroms, quoi. Et évidemment, c'est logique, finalement, que tant qu'un événement historique ne s'est pas advenu, on se réfère à ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre et aussi de voir un peu les stratégies de réaction, quoi.
Ouais, et puis là-dessus, je trouve qu'il y a aussi chez Hilberg, il sort un exemple intéressant quand il parle de la Pologne et de l'Ukraine en 1941-1942. Pour les communautés juives, d'abord, il dit qu'ils sont très peu informés parce que il y a eu le pacte germano-soviétique et les médias soviétiques ne parlent pas de l'antisémitisme en Allemagne, parce qu'il y a un pacte d'amitié entre, ou de, disons, de coopération. Donc il y a très peu d'informations là-dessus. Et puis pour les Juifs, que ce soit en Ukraine ou en Pologne, eux, ils peuvent plutôt considérer que la liberté, pour eux, le gage de liberté, il est plutôt à chercher à l'ouest qu'à l'est, quoi. Parce que les pogroms sont venus de l'est, plus. Du tsarisme, et ils devraient historiquement s'attendre plutôt à trouver une émancipation du côté des pays occidentaux. Donc, il y a effectivement un problème de ne pas savoir, en Pologne et en Ukraine, pour les communautés juives, qu'est-ce que c'est le nazisme et qu'est-ce qui se prépare, quoi, depuis 1933.
Oui, et c'est pour ça que il va y avoir, même encore dans la dernière destruction, qui est celle des Juifs hongrois en 1944-1945, l'idée que bon, c'est quand même la civilisation allemande, et ce qui va expliquer le fait que, même ça, c'est quelque chose enfin, on n'a pas idée d'à quel point est-ce que les nazis ont essayé de manipuler les directions, hein, ce qu'on va appeler les conseils juifs, en leur racontant des cracks monumentaux sur le fait que c'était juste des déplacements, etc., etc. Et le fait que, voilà, ils apparaissent comme, voilà, des hommes d'ordre, etc., etc., ça va faire aussi qu'il y a une vraie, vraiment de l'intox, et c'est pas un processus, parce que aujourd'hui, c'est pas forcément très connu, le fait que, enfin, notamment dans les manuels d'histoire ou dans la manière dont c'était télévisé, le fait que c'était un processus quand même, enfin, en tout cas, la phase d'extermination relativement secret, basée sur énormément d'intox. C'est-à-dire que, même si, évidemment, Hilberg mentionne que, évidemment, dans les conversations entre nazis, dans certains ordres et tout, on parle d'anéantissement, de « il faut régler la question juive » et tout ça, je veux dire, en dehors de la bureaucratie nazie, on parle de déplacement, on va mettre les juifs,
Oui,
voilà, ailleurs.
il y a tout un langage qui est codifié, ouais.
C'est ça, exactement.
Et puis, ouais, peut-être après, je pense qu'on reviendra peut-être plus là-dessus, mais un dernier exemple là-dessus, effectivement, les juifs hongrois, quand ils seront déportés en 1944, il y a par exemple l'exemple où ils sont obligés d'envoyer des cartes postales à la maison d'un lieu de vacances sur un lac. Ils seraient plus à l'est, un lieu de vacances sur un lac. Et donc, ils font l'effort de faire écrire ces cartes postales et de les faire envoyer dans leur communauté à la maison, pour faire croire qu'on a une déportation vers l'Est, on va aller travailler, mais pour contrecarrer l'information sur Auschwitz qui circulait effectivement déjà en 1944 largement, quoi.
Ouais, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a même des véritables villages Potemkin, où il y a un village qui s'appelle où on va mettre notamment les anciens combattants juifs de la Première Guerre mondiale, allemands, et tout, au nord de la Pologne, et où en gros, et la Croix-Rouge internationale veut visiter le village, et en gros, Eichmann va faire en sorte, ne peut pas leur refuser, et du coup, il va accepter. Mais en gros, entre-temps, il va complètement refaire de manière à ce que ça apparaisse comme un lieu de villégiature très sympathique, alors que c'était dans un état, bon, effectivement, par rapport au camp de concentration et camp d'extermination, peut-être moins pire, mais enfin, qui était vraiment inhumain, quoi.
Donc voilà, après, dans le deuxième chapitre qui s'appelle Les antécédents, il va donc passer de l'antijudaïsme à l'antisémitisme moderne, sans s'étendre largement sur. Bon, il va parler des théories raciales qui commencent à naître 1800 et le poids que ça prend, mais ce n'est pas très central chez lui comme cet argumentaire. Mais il va dire que quand même il y a un terrain donc historique à travers l'antijudaïsme et l'antisémitisme, il y a un terreau sur lequel tout ça peut, tout l'antisémitisme des nazis peut pousser, et que en gros pour passer à l'acte il faut que Hitler prenne le pouvoir, mais qu'en gros le terreau sur lequel ça peut avoir lieu, il est déjà là. Et ouais, un autre aspect chez Hitler, ça, il écrit ça déjà en 1919, qu'il faut abandonner l'antisémitisme de sentiment, les pogroms, les actions, ce qu'il va appeler après les actions spontanées. Il faut quitter l'antisémitisme de sentiment pour arriver à un antisémitisme de raison. Donc il y a vraiment une idée de planification, d'organisation. Donc il faut arriver au pouvoir, il faut mettre en place l'administration qui va légiférer, tout ça. Donc ce n'est pas. Hitler, il va être assez critique par rapport à certaines actions déchaînement. En même temps, il va essayer de pousser au déchaînement à la haine populaire, mais c'est vrai que Hitler, il a une idée planifiée, argumentée, construit de l'antisémitisme. Et voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, la Nuit de Cristal, du coup, en 1938, qui est un petit peu initiée par Goebbels, voilà, ça va pas être forcément très apprécié par les responsables nazis, parce que c'est pas assez ordonné, propre, ça donne une mauvaise image de l'Allemagne, etc. Et c'est ce qui va expliquer le fait que, par exemple, Goebbels va être ensuite écarté un petit peu voilà, du processus de destruction au niveau au niveau de ses responsabilités, quoi.
Ouais, on voit ça déjà en 1933, quoi, avec après l'arrivée au pouvoir et le boycott juif. En fait, il y a beaucoup de discussions entre historiens. Est-ce que c'était populaire ce boycott? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt plantés les nazis en voulant faire ce boycott et la Nuit de Cristal, quoi, les deux événements où ils ont essayé de déclencher, soi-disant spontanément, une haine populaire contre les juifs pour montrer qu'il y a un antisémitisme populaire. Tout ça. Et dans les deux cas, les rapports des services de renseignement sont plutôt mitigés. Ils disent plutôt que c'était pas très populaire. Et bon, moi je pense qu'une des explications, c'est que. Parce qu'il ne faut pas déduire à partir de ça qu'il n'y a pas un antisémitisme dans la population. Je pense qu'il faut vraiment considérer qu'il y a un antisémitisme profond dans la population allemande. Qui remonte de l'antijudaïsme et qui vient aussi du mouvement Völkisch, de tous ces mouvements nationalistes, du romantisme allemand, qui s'inscrit dans toute cette lignée-là, contre la modernité, contre les bouleversements que la modernité apporte dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc que vraiment l'antisémitisme est profond et se nourrit là-dedans. Mais il y a une explication qui paraît assez logique, c'est que les Allemands, ils n'aiment pas le désordre. Et le boycott, autant que la Nuit de Cristal, ça fait très sale, ça fait désordonné, ça fait du tort à l'Allemagne à l'étranger, par exemple. Ça cause des gros problèmes de contre-boycott dans d'autres pays. Voilà. Donc je pense qu'il y a un antisémitisme profond, mais qu'il faut d'une certaine manière légiférer, il faut faire des lois, comme ça chacun il n'est pas non plus responsable de ce qu'il fait, ce n'est pas de sa faute quand il fait quelque chose, il suit des lois. Et c'est là qu'on. Et je pense que ça a une logique, voilà, avec cette affirmation de Hitler de dire voilà, pour un antisémitisme de raison et pas pour un antisémitisme de sentiment.
Oui, même si évidemment, ça veut pas dire qu'évidemment il n'y a pas une forme d'antisémitisme, enfin une dimension psychopathologique à l'antisémitisme nazi, mais en tout cas, on peut dire, en tout cas, bon, je pense qu'on en reparlera dans l'autre émission, mais par exemple, Hilbert clairement n'a pas une vision du processus de destruction comme une espèce de folie meurtrière ou de psychopathologie, mais il va plutôt le chercher effectivement du côté d'un processus de destruction planifié d'ailleurs qui va être conçu comme tel avec l'idée d'une solution finale à la question juive, quoi.
Oui, planifier ça, il faut ça,
Oui.
il faut ça, c'est, voilà, c'est un des grands débats de l'historien,
Bien sûr.
quoi. Est-ce que l'Allemagne a glissé là-dedans? Est-ce que c'est une radicalisation qui se fait au fur et à mesure ou est-ce qu'elle était planifiée? Et Hilbert, il est plutôt dans l'option d'une radicalisation qui se fait petit à petit. et pas tellement d'un plan qui était préétabli au début, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais ça, effectivement, on en parlera dans la deuxième émission, même si d'ailleurs, finalement, les deux options ne sont pas radicalement incompatibles.
Mmh. Ou en tout cas, ils se nourrissent mutuellement.
C'est ça, et, exactement.
Donc voilà, si on veut avancer un peu chronologiquement, donc après 1933, la prise de pouvoir des nazis, il y a plein de débats d'historiens aussi là-dessus. Est-ce qu'il faut encore appeler ça prise de pouvoir, ou est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt parler d'abandon du pouvoir, que c'est les conservateurs qui ont donné le pouvoir à Hitler, est-ce qu'il a pris le pouvoir? Donc voilà, en tout cas, il y a l'arrivée de Hitler au pouvoir par les élections et par...
Par sa nomination par le président Hindenburg.
Ouais, voilà, il se fait nommer chancelier. Et tout de suite vont commencer en fait les premières mesures anti-juives. On voit que ça démarre tout de suite avec le boycott des commerces juifs, et ensuite avec vraiment un plan, là on peut dire très méthodique et continu de radicalisation, de séparer la communauté juive de la communauté allemande, quoi. C'est-à-dire très rapidement, on va commencer à interdire les professions libérales, les médecins, on va commencer à légiférer qu'un médecin juif, il n'a plus le droit de traiter un arien. On va commencer à séparer sur tous les niveaux, et ça va se radicaliser de 33 jusqu'à 39, dans les universités, dans les écoles, vraiment dans tous les domaines de la société, on va commencer à faire une séparation physique et matériel ensuite aussi. Ce qui va d'ailleurs aussi amener, par exemple, à une grande concentration des Juifs qui vont, pour des raisons de survie, en gros, vont se concentrer dans les villes. Plus de la moitié des Juifs vont vivre à Berlin, à Francfort. C'est les deux grandes communautés, parce qu'on va leur couper leur... Je veux dire, les avocats, ils n'ont plus le droit de travailler. Et ce genre de décisions, des fois, se font extrêmement rapidement. Il peut y avoir une loi qui sort aujourd'hui et 3 mois plus tard, interdiction de travailler. Donc une précarisation qui va amener à une concentration dans les villes où il y a plus de solidarité possible, quoi.
Et d'ailleurs, ça c'est intéressant ce que dit Hilberg sur cette question, parce que finalement, et ça on en revient un peu au titre de notre émission, et même si on en parlera plus dans la deuxième émission, c'est que les premières mesures antisémites des nazis visent finalement à s'attaquer à ce qui est vu comme la domination juive. Et c'est-à-dire, finalement, ça fait partie du processus d'expropriation, c'est-à-dire de s'attaquer à ce qui est censé être le pouvoir juif. Parfois, c'est juste des petits commerçants, des avocats, des médecins. Mais en gros, de les déposséder de toutes leurs positions sociales qui ne sont pas les positions les plus basses, et de les mettre dans les positions les plus basses de la société. Donc, d'où la révocation des fonctionnaires aussi qui va arriver, le fait qu'on va aller jusqu'à révoquer même des anciens combattants, etc., etc. Enfin, il y a vraiment un processus de dépossession des Juifs, et qui va de pair avec cette vision dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission, enfin dans la deuxième émission, de il y a une espèce de complot juif, il y a une domination juive, du coup il faut leur ôter toute leur position de pouvoir dans la culture, dans l'administration, dans l'armée. Et du coup, ça, c'est effectivement le tout début du processus de destruction va passer par la séparation, et par le fait qu'on va ôter aux Juifs toute leur position où ils avaient une place importante dans la société allemande, quoi.
Ouais, par exemple, il va y avoir beaucoup de débats sur les Juifs qui ont fait la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup de conservateurs, beaucoup de même sympathisants nazis vont avoir du mal à dire. Quelqu'un qui a combattu pour l'Allemagne et qui a été blessé pour l'Allemagne, qu'il faille l'exproprier et l'expulser. Donc il y a eu, ça c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, de par exemple déporter ceux qui ont eu des décorations d'honneur dans la Première Guerre mondiale, les Juifs. Ça va être des débats à l'intérieur des fractions plus radicales et moins radicales du nazisme. Oui, bon, à la fin, c'est clair que tous les Juifs ont été déportés, où tout le monde a été concerné, mais pendant une période, disons, la droite nationaliste veut défendre encore les Juifs qui ont servi dans la Première Guerre mondiale.
Et d'ailleurs, ça, c'est peut-être, on va le voir tout au long de l'émission et aussi dans l'autre émission, mais que dans l'extension des mesures antisémites, le nazisme innove, entre guillemets, par le fait que tout le monde, alors après, il y aura quelques exceptions qu'on va voir, hein, mais quasiment tous les Juifs, même des Juifs décorés, même des Juifs conservateurs, etc., etc., vont être ciblés par les mesures anti-juives et même vont finir par être ciblés par la mesure anti-juive de l'anéantissement, de l'extermination, alors que, disons que, dans toutes les autres formes d'antisémitisme, on va dire conservateur, nationaliste et tout ça, qu'on va retrouver par exemple dans la France de Vichy, en Slovaquie, en Croatie et dans un certain nombre de pays comme ça, les mesures anti-juifs s'arrêtaient. Bon, par exemple, les convertis, les juifs convertis au christianisme de longue date ont été exemptés, ou les anciens combattants et tout. Alors que là, vraiment, l'antisémitisme nazi se singularise par le fait que personne, au fur et à mesure, ne doit être épargné, quoi.
Voilà. Et c'est quelque chose qui va se faire par étapes. C'est pas que tout ne va pas être imposé dès le début. C'est aussi un moment de Hilberg, il dit ça, que le fonctionnaire ne voyait pas forcément où ça allait mener, mais que étape par étape, la politique se radicalisait, sans forcément, dès le début, exactement savoir où ça allait. Donc après, il va parler des, comme tu avais évoqué tout à l'heure, donc les quatre hiérarchies sur lesquelles s'appuie le nazisme pour la destruction des Juifs. Donc c'est d'un côté la bureaucratie ministérielle, c'est les forces armées, c'est l'économie et le parti. Et il va y avoir une lutte d'influence et de pouvoir à travers toute la guerre, parce qu'effectivement tout le monde n'est pas exact. Par exemple, l'armée au début, on peut dire qu'elle est plus réticente au début de la guerre contre la Pologne, elle est plus réticente sur le massacre systématique des Juifs. Après, plus tard, on ne peut plus dire ça, après l'armée elle a totalement participé à ça. Mais il y a une lutte de concurrence et beaucoup de travaux sur comment fonctionne le régime nazi. Et effectivement, il y a beaucoup de domaines où Hitler va donner des indications générales et les différents appareils, donc la bureaucratie, l'économie, l'armée et le parti, vont se concurrencer l'application et aussi dans la prise du pouvoir. Par exemple, il va y avoir une longue bagarre sur qui est le premier responsable de la destruction des Juifs. Et ça, c'est finalement le parti en gros qui va gagner, quoi. C'est Himmler et qui va prendre le pouvoir là-dedans, qui va asseoir son pouvoir là-dessus, quoi. Mais c'est un régime en forte concurrence entre les différents acteurs, quoi. Il va y avoir beaucoup de tiraillements, quoi.
Ça, on en parlera aussi dans la deuxième émission, mais c'est vrai que le régime nazi, c'est un régime effectivement très complexe, où il y a à la fois une centralité de Hitler, mais en même temps une concurrence des bureaucraties entre elles. Et c'est pour ça que du coup, c'est un processus assez complexe, où il n'y a pas nécessairement une homogénéité complète, même si globalement, on voit que les étapes s'enchaînent, rétrospectivement, en tout cas, on peut les voir s'enchaîner. Voilà, après.
Par exemple, sur l'armée, je disais ça aussi, leur attitude, c'est important parce qu'il y a eu des gros efforts en Allemagne d'essayer de blanchir l'armée, quoi, et de dire l'armée n'a pas participé aux mesures anti-juifs. Il y a une dizaine d'années, une exposition sur la Wehrmacht qui essayait de la mettre dans une lumière plus favorable et dire eux, ils ont fait la guerre, d'accord, ils ont fait la guerre, il y a des crimes de guerre, mais l'extermination des Juifs n'était pas. Ils n'ont pas participé à ça, ce qui était une certaine forme de révisionnisme, quoi, parce que ce n'est pas vrai, quoi. L'armée, elle a, par exemple, il y a dans les massacres, le plus grand massacre à Babi Yar, donc à Kiev, c'est l'armée qui encerclait les lieux et qui fournissait les camions et les munitions, et ensuite c'est des gens des SS qui ont fusillé les gens. Mais bon, voilà, il y a une collaboration très active, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est juste simplement une forme d'hypocrisie de l'armée qui voulait pas avoir de sang sur les mains, mais en réalité.
Même si au début il y a pu avoir effectivement certaines divergences, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc après, il arrive à la question si tu veux séparer les juifs des Allemands dans la société, ben, il faut définir ce que c'est un juif. Et ça, c'est un grand, grand casse-tête pour. pour les bureaucrates qui veulent, donc, parce que tout le monde s'accordait qu'ils détestaient les juifs, mais quand il fallait définir exactement qui c'est qui était juif, ce fut un grand problème. Et là, il prend un exemple assez intéressant d'un monsieur qui s'appelle von Gerlach en 1920, qui avait un parti nazi, un parti antisémite, c'était un parti qui s'appelait le parti antisémite, donc c'était vraiment le programme de ce parti, et qui avait en fait échoué là-dessus, parce qu'ils étaient un parti antisémite, mais quand ils voulaient proposer des lois, ils ne savaient pas définir que c'était un juif. Et donc, dans le nazisme, on va arriver aux lois de Nuremberg en 1935, qui vont les lois raciales, quoi, les lois pour l'hygiène raciale, soi-disant, et on se rend compte des difficultés de la définition exacte de ce que c'est un juif. Finalement, en fait, les nazis vont se contenter d'une définition religieuse, quoi, ou d'appartenance à une communauté religieuse. C'est ça, finalement, qui va être le décideur. Ils ont bien voulu et ils ont bien déliré totalement avec leur biologie raciale, d'essayer de trouver du sang juif. Ils ont fait des analyses corporelles sur les gens. Ils ont essayé de prouver aussi, comme avec les tziganes, essayer de prouver le type de crâne, cela, pour arriver à une définition raciale qui n'était évidemment pas possible. Donc pour dans l'administration, pouvoir décider des choses, pour fixer qui est juif et pas juif, donc la définition retenue, c'était sur les grands-parents, c'est-à-dire sur qui c'est qui est inscrit dans une communauté religieuse juive, les grands-parents, et qui c'est qui a aussi une pratique, soi-même une pratique religieuse. Donc finalement, on se rend compte que voilà, la loi s'appelle les lois d'hygiène raciale, mais c'est une définition religieuse de l'être juif, quoi. Donc, il y a eu des discussions. Chez Hilberg, c'est long, c'est interminable, discussion entre les différentes administrations pour qu'est-ce qu'on fait des métis, qu'est-ce qu'on fait des mariages mixtes. Voilà, aussi des débats interminables. Et finalement, ce qui a été retenu dans la définition, c'est que toute personne qui a deux grands-parents juifs et qui est de confession juive, donc ça, c'est, ils sont reconnus comme juifs, deux grands-parents et de confession juive, on est juif, ou marié à une juive. Et autrement, tous les personnes aujourd'hui ayant trois ou quatre grands-parents juifs sont reconnus comme des 100% juifs. Et les autres qui ont un grand-parent juif sont des métis au premier degré. Et les autres qui ont deux grands-parents juifs, mais qui ne sont pas de confession juive, eux, ils sont aussi considérés comme des métis. Et les métis, ils ont en grande partie, beaucoup ont survécu la guerre. Avec beaucoup de, ils ont aussi été spoliés. Mais beaucoup ont survécu.
Et ça, d'ailleurs, il faut expliquer la survie, hein, également aussi des personnes juives qui étaient mariées à des Aryens. C'est pas une survie parce que les nazis étaient sympas et qu'ils se sont dit non, mais ils ont un peu. Il y a des bureaucrates nazis qui disaient non, mais quand même, il y a quand même une majorité de sang allemand, et du coup, au fur et à mesure du temps, cette part allemande va prendre le dessus. Qui avait, disons, une partie de la bureaucratie nazie qui disait on peut les laisser tranquilles parce que de toute façon ils vont s'éteindre naturellement. Il y avait des bureaucrates nazis qui défendaient ça, qu'ils vont s'éteindre naturellement, ou le sang allemand va finir par dominer, ou de toute façon ils ont déjà du sang allemand, on va pas supprimer des gens. Ou alors parfois il y avait des considérations militaires, que ça faisait quand même beaucoup moins de gens dans l'armée et tout. Mais après, au niveau, on va dire, de ceux qui vont mener l'extermination des juifs, Himmler et tout ça, la principale raison pour laquelle ces populations ne vont pas être exterminées, c'est parce que c'était compliqué de les séparer, en fait, complètement de la société allemande, bon, notamment les gens qui étaient mariés et tout ça, ou les gens qui avaient une grande partie de leur famille qui était allemande. Et du coup, si ils avaient été exterminés, ça aurait publicisé, entre guillemets, l'extermination des juifs en cours. Et les nazis n'avaient pas envie que tout le monde sache ce qu'ils étaient en train de faire. Et du coup, ils ont préféré, sous crainte que ce soit révélé au grand jour dans l'opinion publique allemande, le processus d'extermination, du coup, ils ont préféré abandonner l'idée de les exterminer, quoi.
Et voilà, toutes ces définitions étaient importantes. Ça, c'est intéressant. Le régime nazi était très, très légaliste. Ils ont fixé le cadre légal pour séparer et détruire les juifs. C'est assez incroyable, mais ça avançait pas à pas par des définitions. Par exemple, dans l'administration, comme il disait qu'il ne voulait pas d'un antisémitisme spontané, mais d'un antisémitisme rationnel et construit, par exemple, Ils ont légiféré, ils ont mis un temps fou à légiférer sur les trains. Qu'est-ce qu'on fait si un juif il rentre dans un train en Allemagne et qu'il y a une place libre? Est-ce qu'il peut s'asseoir à côté d'un arien ou pas? Tu vois, ce genre de détails, ou jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, casser la tête entre les différentes bureaucraties, est-ce que c'est applicable, est-ce qu'on va arriver à le faire? Donc vraiment pour une construction légalement assise de la séparation et ensuite de la déportation, quoi.
Oui, c'est le caractère très moderne, hein, dont on parlait au début de l'émission, effectivement, de l'antisémitisme nazi qui va être extrêmement bureaucratisé et passer notamment par des questions légales très pointues.
Donc effectivement, pour Hitler, il s'agit dès 1933 de se débarrasser de ce qu'il appelle la puissance satanique, que selon lui, qu'ils occupent toutes les positions clés dans la vie spirituelle et intellectuelle. Voilà, en 1933, il y a environ 1% de la population allemande qui est juif, c'est-à-dire à peu près 600 000 personnes. Et tout de suite, ça commence avec des mesures, quoi. Voilà, en 1933, sont radiés les avocats, en 1938, les médecins, sauf les médecins juifs, ils ont encore le droit de soigner des juifs. En 1935, on va ordonner le renvoi, au mois de novembre 1935, on va ordonner le renvoi des derniers fonctionnaires qui restent. Donc voilà, il y a vraiment une expulsion hors de la société. Et donc après la définition et disons la séparation, ben on va commencer à arriver au vol, quoi, à ce qu'on appelle l'arianisation, qui est de déposséder tous les biens. Parce que ça aussi, par exemple, c'est souvent une question, pourquoi il y a eu pas mal d'émigrations entre 1933 et 1938, tant que c'était possible, mais il y a eu une mainmise extrêmement forte de l'administration sur les biens juifs, assez rapidement, qui faisait que c'était extrêmement difficile de partir.
Et sur l'argent aussi, ouais, même, ouais. Il y avait une limitation des fonds disponibles.
Ah oui, au moment pour partir, on avait le droit d'amener par personne la valeur équivalente de 10 dollars. En gros, on ne pouvait pas amener des devises avec à l'étranger, quoi. Il y avait un blocage des devises. Donc voilà, dans la politique d'arianisation, ça va commencer par d'abord l'interdiction de passer des commandes publiques dans les entreprises ariennes, et ensuite on arrive aux confiscations, d'abord ce qu'ils vont les appeler légales, qui sont juste avec énormément de pression, et là où ça ne marche pas, avec des confiscations punitives. Donc voilà, là, c'est un très vaste processus assez long. Effectivement, selon les pays, ça va aussi se passer en Tchécoslovaquie. Il va y avoir beaucoup de concurrence à l'intérieur de l'appareil nazi parce que c'est aussi de la mafia, quoi. Himmler, il va se mettre la main mise sur, par exemple, sur les entreprises minières en Tchécoslovaquie. Mais c'est lui qui va ensuite décider, il ne va pas le filer à l'État, c'est lui qui va décider qu'est-ce qui va se passer avec. Il y a cette lutte de concurrence à l'intérieur de l'appareil, quoi. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'arianisation des entreprises mène aussi à une certaine forme de modernisation de l'économie. Parce qu'il y a aussi un peu ce paradoxe entre le régime nazi comme un régime d'une idéologie qu'on pourrait considérer comme obscur, arriéré, je ne sais pas quoi, et au même temps un développement des forces productives énormes. C'est le pays qui se modernise le plus rapidement avec les autoroutes, la technique, qui ont fait un grand bond en avant dans la technologie. Et c'est vrai que là, c'est assez intéressant, Hilbert, il pointe juste ce truc, que l'arianisation, c'est aussi d'une certaine manière une concentration dans la main de peu. Ça veut dire on va par exemple fermer énormément de petites entreprises et construire une concentration, quoi. Par exemple les très très grandes entreprises qui étaient prises aux juifs, ils n'étaient pas par exemple morcelés et distribués à des petits producteurs ou à des petits commerçants ou des choses comme ça. On était dans une logique étatique d'une économie moderne, quoi.
Oui, oui, c'est malgré, et là en décalage avec l'idéologie corporatiste des nazis, même si, comme on l'a vu dans une autre émission qu'on a fait sur Fascisme et Grand Capital de Daniel Guérin, en réalité, il y avait un décalage entre cette idéologie de la petite propriété et la réalité des nazis qui, pour des raisons notamment militaires, poussaient à la concentration des forces productives.
Pendant une période aussi, il y avait conflit entre l'administration et le parti, en gros, comment traiter les juifs étrangers. Est-ce que Est-ce qu'on peut exproprier tout de suite les juifs américains, par exemple, aussi, ou est-ce qu'on va avoir peur des représailles? Par exemple, le ministère des Affaires étrangères pouvait être plus réticent à s'attaquer aux juifs étrangers. Et là, par exemple, c'est Hitler qui trancha, qui disait qu'il traitait les juifs étrangers en Allemagne comme les juifs allemands. Ça veut dire qu'il fallait les exproprier de la même manière. Ensuite, il y a énormément de mesures financières qui vont peser sur la communauté juive, qui vont faire qu'elle va être de plus en plus appauvrie et qui va aussi faire qu'elle va avoir de plus en plus de mal à réagir face à ce qui lui arrive. Voilà, donc dans la politique de séparation et de séparation des juifs de la population allemande, il y a aussi toute la question économique, donc la réorganisation des entreprises, mais après individuellement, les impôts sur la fortune qui sont instaurés spécifiquement pour les juifs, quoi. C'est-à-dire il y a ce qu'on va appeler une taxe de fuite qui va essayer d'empêcher les gens de partir avec les juifs de partir avec leur argent. Et après l'attentat en 1938 contre le travailleur à l'ambassadeur à Paris, de l'ambassade à Paris, Göring va faire ce qu'il va appeler un paiement expiatoire. Il va demander à tous les juifs en Allemagne de payer une amende de 20% de montant de 20% de ses avoirs qu'ils doivent payer en 1938 et en 1939. Après tout, tout l'argent, toutes les taxes, tout ce qu'on vole déjà aux juifs, même s'ils veulent partir à l'étranger, en fait, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas partir avec l'argent. Et, avec leur argent, ils ne peuvent pas partir avec des devises. Ils ne peuvent pas changer leur marque en devise étrangère. Ou alors, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était seulement à hauteur de 10 dollars américains par personne, ce qui n'est rien du tout. Parce que plus fondamentalement, on peut dire que pour les Allemands, en fait, tout argent qu'un juif peut posséder est fondamentalement de l'argent allemand et doit rester au peuple allemand.
Oui, c'est-à-dire qu'il a été approprié illégitimement. Voilà,
c'est du vol du peuple allemand, il faut qu'on le garde pour les Allemands. À partir de 1939, on va aussi instaurer des réglementations sur le salaire des juifs, qui vont être du coup inférieures au salaire arien. Ça va aggraver leur situation matérielle. Il y a de la famine organisée, les rations pour juifs sont réduites. Tout ça, c'est calculé par des fonctionnaires, la quantité de lait qu'on doit donner à une famille avec des enfants, si elle est arienne ou juive. Ben pour les juifs, c'est moins. Et c'est calculé. Il y a des ordres de bureaucrates qui construisent la séparation et la destruction des juifs, quoi. Donc à travers toutes ces mesures bureaucratiques, on va... communauté qui était donc en 1933 relativement juive en Allemagne, qui était relativement florissante, et on l'aura transformé dans ces 6 années dans un, comme lui dit, en un troupeau d'affamés qui ne peuvent vivre que de quémander des miettes. Parce qu'il y a plein de mesures là-dedans. On va interdire les relations extra-conjugales entre juifs et non-juifs. Là je reviens un peu en arrière, mais en 1933, la loi contre la surcharge des écoles et des universités d'Iraï, qui fixe à 1,5% le taux de juifs encore autorisé, avant que plus tard on va l'interdire totalement. À partir de 1939, il y a un couvre-feu pour les juifs, parce que la police elle dit que les juifs profitent de l'obscurité pour agresser les ariennes. En juillet 1940, on va interdire les lignes téléphoniques pour les juifs, et aussi l'utilisation des cabines téléphoniques pour les juifs. C'est plein de choses qu'il faut s'imaginer, qu'est-ce que ça veut dire, parce que des fois on dit, ouais, mais pourquoi il n'y a pas plus qui émigrent et tout ça, mais comment? On n'a plus d'argent, on ne peut pas quitter le pays, le passeport, en 1938, ils vont instaurer le J dans le passeport, que dans le passeport on est identifié comme juif. Ça c'est d'ailleurs une demande qui est faite par la Suisse, hein, c'est la police suisse qui demande aux Allemands de faire ça, parce que pour fermer les frontières face à l'immigration juive. Et puis, la dernière étape de ça, c'est en 1941, le port de l'étoile jaune, qui donne une identification immédiate à tout juif et qui rend aussi toute opposition plus difficile, parce que du mal à s'organiser, à se cacher, à bouger.
Et donc, voilà, là, on voit bien qu'il y a une première, de 1933 à 1939, comme... l'a appelé Friedlander, les années de persécution, il y a une première étape du processus de destruction qui s'est enclenchée, avec donc l'étape de la définition et de la séparation, d'une certaine manière, et l'étape de l'expropriation. Et ensuite, à partir de 1939, va s'enclencher une nouvelle phase, qui va être la phase de la concentration, et puis À partir de 1941, on entrera dans la dernière phase, qui est celle de la destruction physique, de l'annihilation. Et ces deux dernières phases, on va les voir dans la deuxième partie de cette émission, après un intermède musical.